On est 16 kilos. Moi je suis 18, toi t'es 16 et toi t'es quoi?
J'ai pas mes lunettes. 14.
Ça m'y bédé.
Bah voilà.
Tu veux te mettre au milieu?
Ah non, non.
Après,
c'est un
bisou ou pas? T'embrasses après?
Dans le milieu culturel, on parle souvent des années 80-90 comme d'un âge d'or. L'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, le doublement du budget, l'institutionnalisation du secteur, la création de nouveaux équipements culturels, des lieux de création, de diffusion, des labellisations et un public de la danse qui se développe. À Lyon, la Maison de la Danse est créée en 1980 par 5 chorégraphes. Puis, la première édition de la Biennale de la Danse a lieu en septembre 84. Mathilde Monnier est l'une de ces artistes à avoir traversé cette histoire en occupant différentes responsabilités, en dirigeant plusieurs institutions tout en créant des spectacles, en gérant des tournées, des équipes, avec toujours le même désir de transmettre aux nouvelles générations d'artistes. J'ai eu envie de partir à sa rencontre pour qu'elle me raconte une époque et connaître le regard qu'elle porte aujourd'hui sur le paysage chorégraphique. La chorégraphe qui a présenté sa dernière création, Black Light, l'été dernier au Festival d'Avignon, une adaptation de la série Arte H24 sur les violences faites aux femmes au quotidien, me reçoit un samedi matin, sous la verrière des Subes, à Lyon. Je suis Marion Coutel, vous écoutez Non ma fille, vous n'irez pas danser, un podcast de la Maison de la Danse de Lyon, épisode 4.
Je suis née en Alsace, à Mulhouse, mais en fait j'ai passé une partie de ma vie d'enfance au Maroc, puisque j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 12 ans, donc ça m'a sans doute beaucoup influencée. Je pense d'avoir eu la chance de vivre dans un pays en Afrique du Nord, ça a été quelque chose d'important pour moi dans ma vie. Puis après je suis effectivement revenue en France. Et en fait, c'est dans cette ville ici à Lyon que j'ai démarré la danse, puisque j'étais au lycée ici, au lycée Ampère Bourse à Lyon. Et il se trouvait que derrière le lycée, il y avait un cours de danse avec quelqu'un qui s'appelle Didier Deschamps. Et je allais prendre les cours entre midi et deux, le week-end, en fait, tout bêtement, comme le font les lycéens, dans les temps impartis que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser. Voilà, et après, il se trouve aussi que ça, c'est un point important. Il se trouve qu'à cette époque-là, donc on parle là du début des années 80, il se trouve qu'à Lyon était ce qu'on avait appelé en France un peu la capitale de la danse, puisque c'était le début de la Maison de la Danse. Guy Darmet avait créé la Maison de la Danse. Et il y a eu, à cette époque-là, un vrai engouement pour la danse, à la fois du public, des institutions, des chorégraphes, des compagnies. Et moi, je me suis retrouvée dans cet environnement qui était un environnement vraiment favorable pour démarrer ce métier. Alors, quand j'arrive à Lyon, donc je prends ces cours de danse et à ce moment-là, je passe mon bac. Et en fait, assez vite, les choses ont été faites d'une telle manière que assez vite, en prenant des cours à droite à gauche, je suis repérée et je suis engagée en fait. J'étais engagée à 19 ans dans une compagnie professionnelle qui était la compagnie de Michel Allais et Gaillan et à Lyon. Et puis après, ça s'est enchaîné non-stop en fait. Ce qui fait que sur le fond, j'ai jamais fait d'école, mais j'ai jamais eu vraiment une formation très complète. Je suis plutôt quelqu'un qui a appris son métier sur le tas et d'une façon empirique et presque déjà dans un cadre professionnel. Donc en fait, j'ai pas fait d'études, d'abord parce qu'à l'époque, il y en avait peu. Il y avait pratiquement, en dehors des conservatoires, quasiment rien qui existait. Et puis deuxièmement, parce que le chemin a fait que je me suis retrouvée très tôt professionnelle. Alors le milieu professionnel est un peu petit à cette époque-là, parce que le milieu de la danse est relativement petit. Je ne sais pas combien de compagnies il y avait, mais je dirais qu'en France, il devait y avoir une trentaine ou quarantaine de compagnies. Aujourd'hui, on doit être à 500 ou 600 compagnies professionnelles. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Et c'est un milieu qui commence à se structurer, qui est au tout début de la structuration, donc un moment très intéressant. Alors, oui, dans les années 80, on est relativement nombreuses. En tout cas, il y a déjà des figures assez importantes de la danse du côté des femmes. Je pense notamment à alors, des femmes qui étaient déjà là, comme Caroline Carlson, alors Maggie Marin un peu, Régine Chopineau, mais aussi beaucoup d'autres à l'étranger, bien Pina Bausch par exemple. Voilà, il y avait des espèces de Suzanne Birch, il y avait des grandes figures déjà à l'époque de femmes qui étaient très dynamiques, qui étaient déjà des femmes qui étaient assez reconnues dans le milieu. Oui. Alors moi, assez vite, donc, je quitte la compagnie de Michel Allégaillan, qui était à Lyon. Je pars dans la compagnie de Viola Farber, donc, au Centre National de la Danse à Angers. Je suis engagée, je travaille 2 ans là-bas, puis après je pars aux États-Unis pendant 2 ans pour travailler avec des compagnies américaines. Et c'est là que je commence à chorégraphier. En fait, à 23 ans, je décide à New York parce qu'on s'ennuie un peu. Et avec un autre chorégraphe, on décide de faire un premier duo avec Jean-François Durour. Et on fait ce duo qui s'appelle Pudic Acid, qui en fait est devenu très vite un deux duos, donc une pièce d'une heure, et se vend très très vite. Et tout de suite, on a des possibilités de tourner, de jouer, de se structurer. En fait, et donc très vite, je deviens chorégraphe. En fait, à 24 ans, et je commence à travailler comme chorégraphe. Alors ensuite, après ce duo qu'on a créé aux États-Unis avec Jean-François Durour, je rentre en France, et je danse dans des compagnies, mais assez vite aussi, je fais le concours de Bagnolet, et je gagne le concours de Bagnolet. Donc ça doit être 84-85. Suite à ça, je commence à faire mes propres pièces. Assez vite, je fais une première pièce qui s'appelle « Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt », qui provient d'un titre, d'un tableau, d'un peintre surréaliste. Et très vite, cette pièce aussi, il se trouve que cette pièce a déjà un parcours, une destinée. Et je commence à chorégraphier pendant 2-3 ans, 4 ans, en ce qu'on appelle en artiste indépendante. Donc je crée ma compagnie, je suis artiste indépendante. Et puis un peu plus tard, alors là on avance dans le temps, dans les années 90-92, je crée cette pièce qui s'appelle Pour Antigone, où je pars en Afrique pour rencontrer des danseurs voilà, qui avaient d'autres bagages techniques, d'autres bagages artistiques. Et je suis à la suite de ça nommée au Centre chorégraphique de Montpellier. Donc j'arrive en 94 au Centre chorégraphique de Montpellier, où je suis restée pendant 20 ans. Voilà.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette nomination, de prendre la direction d'un centre chorégraphique national, en plus celui de Montpellier ?
Alors, c'était un centre assez connu, puisque c'est un des premiers centres en France. Il y a en plus, à Montpellier, on connaît aussi le festival de Montpellier Danse, qui a 43 ans. Donc, a été aussi un des lieux phares, en fait, dans la danse en France. Et surtout, ce qui a été compliqué pour moi, c'était de prendre la suite de quelqu'un qui était mort, en l'occurrence Dominique Bagouet. Un chorégraphe que beaucoup de gens aimaient beaucoup. Donc la charge émotionnelle, affective, professionnelle était très compliquée de venir après voilà, quelqu'un qui avait été un peu l'enfant chéri de la danse contemporaine et qui est mort très jeune du sida. Et j'arrive après lui et je dois dire que les premières années ont été assez éprouvantes. Mais finalement, au fur et à mesure, je fais mon chemin, je crée une école. J'invite énormément d'artistes, je développe complètement le centre chorégraphique. En fait, on est le premier centre chorégraphique à avoir fait des résidences, à se dire que ce n'est pas juste un centre pour moi et pour ma compagnie, mais c'est un centre aussi qui va inviter d'autres chorégraphes. Donc très vite, au bout de 2 ans, je commence à faire des résidences d'artistes avec l'argent qu'on avait. Je crée Exerce, qui est cette école pour jeunes chorégraphes. Et puis, on développe plein d'activités. Donc on en fait une espèce de lieu très référencé en fait, dans le milieu de la danse. Ça va durer 20 ans.
C'est par ici. 8, 10, 12. C'est les 3 premières places juste ici.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au même moment, Reine Pratt, haute fonctionnaire française, exerce différentes responsabilités au sein du ministère de la Culture. Elle est la première, il y a presque 20 ans, a tiré la sonnette d'alarme dans un rapport qui expose, chiffre et documente la sous-représentation des femmes dans des postes à responsabilité, mais aussi leurs difficultés d'accès aux moyens de production et aux subventions dans le secteur culturel.
Donc j'ai commencé à me demander comment travailler. Moi, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas d'outils particuliers pour travailler sur ces questions. Et j'ai commencé à trouver que la question des hommes et des femmes, on pouvait compter, faire des statistiques, tout en faisant remarquer que si on compte les hommes et les femmes, ça veut dire qu'on oublie toutes celles et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, ou les deux, ou qui passent de l'un à l'autre. Mais néanmoins, c'était un outil, et un outil qu'on ne peut pas utiliser pour les autres types de discrimination, en particulier les discriminations d'origine, de couleur de peau, donc ce qu'on appelle les questions ethniques et raciales, puisqu'on n'a pas le droit en France de faire des statistiques dans ce domaine-là. Les statistiques, c'est problématique, mais c'est utile. Donc j'ai sorti un premier rapport en 2006 qui sortait les premiers chiffres sexués dans le domaine de la culture et rapport dans lequel j'analysais les modalités de fabrication de ces inégalités et où je faisais un certain nombre de suggestions pour rétablir un équilibre plus conforme à la composition de la population. Voilà. Ce premier rapport est sorti en 2006. Il a été diffusé largement, alors à l'époque, par envoi postal à tous les établissements du réseau, à toutes les associations d'élus, et puis à quelques journalistes. Et Le Monde a sorti une page entière sur ce premier rapport en plein Festival d'Avignon. Donc, ce qui a permis au même journal, quelques années après, de dire que ce rapport avait fait l'effet d'une bombe. Parce que, effectivement, tant qu'on n'a pas sorti des chiffres, ça n'a attiré l'attention de personne. Ou ça a attiré l'attention, mais chacune et chacun, éventuellement, dans son coin, en ouvrant les programmations en début de saison, en se disant, c'est quand même incroyable, il n'y a que des hommes dans les programmations. Mais ça n'allait pas plus loin. Donc, ce premier rapport a fait l'effet d'une bombe, comme on l'a dit. Et 3 ans plus tard, après avoir organisé beaucoup de groupes de travail non mixtes, par discipline, par fonction, donc j'ai réuni des femmes de théâtre, j'ai réuni des directrices de SMAC, j'ai réuni des chorégraphes, des musiciennes de jazz, pour réfléchir à ces questions-là dans chaque secteur. Et 3 ans plus tard, après avoir été invitée partout pour en parler, j'ai refait des statistiques. Et nous nous sommes rendus compte que le seul endroit où il y avait eu une évolution forte, c'était dans le secteur des centres chorégraphiques nationaux, où, en 2006, c'est là qu'il y avait les meilleurs chiffres de présence de directrices, puisqu'il y en avait 42 ou 43%. En 2007, il n'y en avait plus que 38%. Et en 2008, 32%, je crois, à peu près. Enfin, en tout cas, c'était entre 30 et 40, et c'était plus près de 30 à la troisième année. Voilà. Donc, ce rapport qui avait fait effet d'une bombe n'a absolument rien changé. J'ai donc écrit un deuxième rapport en 2009 pour aller plus loin dans l'analyse et dans la critique du fonctionnement de ce secteur. Le ministère de la Culture, à partir de 2010, se désintéresse du sujet. Et je pars travailler sur de toutes autres questions, mais qui ne sont pas sans rapport, sur les questions de multilinguisme en Guyane. Et puis, en 2018, je recommence à être invitée à parler de mes fameux rapports sur France Culture, dans des festivals, dans diverses organisations. Et là, j'en ai un petit peu assez de revenir toujours sur cette histoire ancienne qui n'a servi à rien, puisque les choses changent pas ou peu. Et donc, j'ai décidé que j'allais écrire à nouveau pour dire ce que j'en pensais à ce moment-là. Et justement, faire état du fait qu'il peut y avoir certaines évolutions, par exemple, dans le domaine dans le secteur des centres dramatiques nationaux. Il y a plus de femmes aujourd'hui. Il y a nettement plus de femmes qu'il n'y en avait en 2006. Mais tout récemment, un directeur a été remplacé par une directrice. L'inverse. Une directrice a été remplacée par un directeur. Donc, on voit bien que c'est extrêmement fragile et que même si, conjoncturellement, à certains moments, Dans certains secteurs, il se trouve qu'il y a un peu plus de femmes. Ça ne change quand même rien la pensée globalisante que les hommes sont mieux placés pour exercer des responsabilités, être programmés, avoir des moyens de production plus importants que ceux des femmes. Donc j'ai commencé à faire un point sur où on en est aujourd'hui. Et il en est donc sorti ce petit livre qui s'intitule « Exploser le plafond précis de féminisme à l'usage du monde de la culture » qui est paru aux éditions de l'Échiquier en octobre 2021 et qui, je ne sais pas s'il a fait l'effet d'une bombe, mais en tout cas, il continue à essaimer et on en parle et je pense que ça fait avancer la réflexion et que toutes les rencontres auxquelles je suis invitée, ça permet aussi qu'on se sente nombreuses et quelques-uns à partager ses préoccupations et à essayer de faire transformer les choses. Alors, j'ai suggéré, il se trouve qu'en 2021, peu de temps après la sortie de mon livre, le SYNDEAC, donc le syndicat des directrices et directeurs d'établissements d'action culturelle, a sorti une feuille de route en faveur de la parité. Bon, ben, c'est très bien, de la parité dans les programmations, pour que progressivement les choses s'équilibrent. Progressivement, on n'arrivera jamais à rien. Donc, ma proposition a été de dire les choses sont connues depuis 2006. Nous étions à ce moment-là en 2021, donc 15 ans après. Donc ma suggestion, c'est que de 2021 à 2035, 36, on programme autant de femmes proportionnellement que ce qu'on a programmé d'hommes pendant ces 15 ans. Donc on applique la stricte parité sur une période de 30 ans, puisqu'on était au courant, donc on aurait pu le faire dès la saison 2006-2007. Sur 30 ans, établissons la parité dans les programmations. Mais on peut faire pareil pour les nominations. Si, à partir d'aujourd'hui, on ne nomme plus que des directrices à la tête de nos institutions, et c'est possible, on atteindra rapidement la parité, et surtout, on atteindra un stade où on arrêtera d'en parler. Parce que il y aura normalement, bon an, mal an, à peu près autant de femmes que d'hommes qui dirigeront nos institutions, qui seront programmées, qui auront les moyens pour produire des spectacles accueillis sur des grands plateaux et pas seulement sur des petits. Donc, c'est très simple. Elles sont là. On a dit aussi longtemps que la danse était un art mineur. Donc, dans tout ce qui est mineur, les femmes, on peut les accepter tant qu'elles ne prennent pas trop de place. Oui, une des analyses qu'on peut faire, c'est que si les femmes ne sont pas absentes du domaine chorégraphique, de l'accès au plateau et de l'accès aux directions des institutions, c'est peut-être parce que la danse a longtemps été considérée comme un art mineur et donc avait peu de moyens. Et du coup, c'était pas très grave de laisser les femmes s'en occuper. En 1984, sont créés les premiers centres chorégraphiques nationaux. Il y en a à ce moment-là 11. Mais sur ces 11 centres chorégraphiques nationaux, donc premier pas vers l'institutionnalisation de la danse, 9 sont dirigés par des hommes et 2 par des femmes. Ce qui, si on fait un pourcentage, nous amène à 82% de directeurs contre 18% de directrices. Nous sommes en 1984. Je pense que c'est à ce moment-là que se mettent en place ce qu'on a appelé des opérations corps couché, où les gens de la danse, danseuses, danseurs, chorégraphes, je me souviens très bien de les avoir vus à la sortie du Palais des Papes à Avignon pendant le festival, où on sort du palais et le parvis est recouvert de corps couchés. Ce sont les gens de la danse qui manifestent que, sans moyens, ils meurent et leur art ne peut plus exister. Sans doute est-ce en réponse à ces mouvements que est créée en 1987, au sein de la direction de la musique, une délégation à la danse confiée à Brigitte Lefebvre avec quelques moyens financiers qui permettent de sortir la danse de la stricte pauvreté. Alors, au sein le réseau des centres chorégraphiques CETOF, puisqu'on doit être aujourd'hui à 19. Et il y a eu une phase, quand j'écris mon premier rapport, donc les chiffres de 2005, où tout d'un coup, on a quand même 42% de directrices de centres chorégraphiques nationaux. Ça n'a pas duré, comme on le disait, puisque l'année d'après, on est tombé à 38%, puis à 32%, et en décembre 2021, à 15%.
Je pense que les femmes se sont placées à un endroit de beaucoup de générer de la discussion. Par exemple, si je me souviens de choses assez concrètes, quand il y a au centre chorégraphique, on a des réunions de chorégraphes entre nous régulièrement. Ce qui s'appelle aujourd'hui la CCN, l'Association des centres chorégraphiques, ça n'avait pas ce nom-là à l'époque. Et en fait, quasiment, il y avait que des femmes qui venaient à ces réunions. Les hommes venaient très peu, on les voyait jamais. Il y a des gens qu'on n'a jamais vus à ces réunions. Et comme par hasard, c'était des hommes. Et c'était toujours ou Odile ou Maggie ou Régine ou moi qui étions là. En gros, c'est tout. Et il y avait très peu d'hommes. Et donc, c'était nous, on parlait de salaire, on parlait des fonctionnements, on parlait de projets. En fait, c'était assez... Il y avait peu de gens que ça intéressait de vouloir réfléchir à tout ça. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple qui est un petit exemple, mais sur le fond, qui est assez probant. Et c'est vrai que toutes les endroits où, au contraire, on va être beaucoup plus dans la représentation, là, les hommes étaient beaucoup plus présents. Je crois que les femmes faisaient un travail de fond, qui était plus fort. Après, il y a toujours des exceptions, comme toujours. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Alors, c'est pas ce qu'on attend des femmes, mais je pense que les femmes avaient entre elles... On avait entre nous aussi des dialogues plus souterrains. On pouvait s'appeler pour prendre des défenses politiques, par exemple, si je me souviens aussi de ce qui a été fait au moment de la guerre en Bosnie, où moi, j'étais très engagée. Bangui aussi, Ariane Nouchkine aussi. Il y avait quand même toujours une espèce d'entraide, sur des problèmes politiques, des problèmes sociaux. On était très politique en fait. Je crois que les femmes étaient beaucoup plus politiques que les hommes à l'époque et prêtes à se défendre beaucoup plus.
Alors, j'ai analysé cette situation spécifiquement dans le domaine du théâtre. Parce que, mais ça fonctionne pareil dans la danse, et le témoignage de Mathilde Monnier le confirme tout à fait. Le théâtre, c'est une grande maison. Et d'ailleurs, on se retrouve dans le foyer, enfin, il y a tout un vocabulaire, et puis on dit la maison. Donc, parlons du théâtre au sens large, c'est-à-dire le lieu de spectacle où on accueille des spectateurs. Il y a un plateau, on accueille des spectateurs. Et finalement, que ce soit pour du théâtre ou pour de la danse, c'est un peu pareil. Eh bien, ces maisons fonctionnent comme les maisons. Elles fonctionnent comme les foyers personnels, privés, avec un homme qui dirige et dont la fonction principale, c'est d'une part de s'occuper de son art quand c'est un artiste. Les centres dramatiques, les centres chorégraphiques, c'est un peu différent pour les scènes nationales, mais son rôle reste le même. Donc le directeur, s'il est artiste, s'occupe de développer son art et de la représentation de la maison à l'extérieur. Donc s'il est artiste, il s'occupe de la représentation sur le plateau, mais il s'occupe aussi d'aller représenter dans des instances, dans des réunions, face à la presse. C'est lui qui a la parole, qui porte à l'extérieur la parole de la maison. Pendant ce temps, elle marche comment la maison ? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Eh bien, ça marche comme à la maison. Il y a toujours une femme derrière, en général une femme. Il y a quelques co-directions, il y a quelques directeurs adjoints ou administrateurs qui ont cette fonction, mais... c'est très souvent des femmes. D'ailleurs, c'est le seul endroit où les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes, sur ces postes de second. Et les femmes s'occupent de la maison. Et donc, des ressources humaines, de comment ça fonctionne, de la communication, des relations publiques, de la relation au territoire, enfin, toutes choses qui leur sont assignées. Et quand elles dirigent la maison, elles s'en occupent aussi, parce qu'elles ont cette préoccupation. Et qu'elles s'imaginent que, puisqu'elles ont été nommées à la tête d'une maison, c'est pour que cette maison marche bien. Et elles s'en occupent elles-mêmes. Ce qui souvent leur est reproché. Parce que, en ne s'occupant pas de la marche de la maison, ces messieurs se mettent à l'abri de toutes les difficultés. Parce que les ressources humaines, vous le savez bien, puisque vous travaillez dans une maison, c'est quand même pas simple de s'occuper de faire que le personnel soit heureux si on veut que la maison fonctionne bien. Et dans ces maisons, il y a beaucoup de personnel pas heureux. Il y a eu un article du Monde fin 2019 qui s'intitulait « Le théâtre a mal à ses ressources humaines » et qui disait dans quel état de misère sont nos maisons. Parce que, effectivement, elles sont dirigées par des hommes qui n'en ont mais rien à faire de comment ça marche à l'intérieur. Et quand les directrices s'en préoccupent, en général, ça leur retombe dessus parce que, effectivement, c'est compliqué. Et elles ne peuvent pas être partout. Et elles prétendent être partout, c'est-à-dire à la fois représenter la maison à l'extérieur, être sur le plateau et s'occuper aussi que ça marche bien. Et le témoignage de Mathilde Monnier est très parlant. Mais ça veut dire que ces fonctions sont mal pensées. Parce que c'est absolument pas normal que ça fonctionne. C'est ce qui paraît beaucoup plus, je dirais même humainement correct, c'est que quand on dirige une maison, on se préoccupe de savoir comment ça marche à l'intérieur et de faire que ça se passe bien.
Alors quand je dirige le CND, c'est tout à fait une autre époque. Hein. Dans le Centre National de la Danse à Pantin, on est dans une autre époque puisque c'est... Moi j'arrive en 2014... Donc on est dans cette époque, pas encore MeToo, mais en fait MeToo déjà commencé à poindre. Mais disons qu'il y avait déjà une vraie conscience paritaire qui était. Et d'ailleurs, je pense que ma nomination a dû faire sens à ce moment-là parce que j'étais une femme. Mais je me souviens quand même d'une anecdote assez drôle parce que dans les discussions qu'on avait avec nos comparses féminines et dans ce qu'on savait sur ces nominations, on se disait toujours ils vont nommer des femmes à la danse et pour les enfants, spectacle pour enfants. Et de fait, toutes les directrices de spectacle pour enfants, en général de lieux qui sont spécialisés spectacle pour enfants, c'était toujours des femmes. Donc en fait, les quotas étaient remplis par la danse et par le théâtre pour enfants, les quotas féminins. C'est des postes qui sont moins des postes de pouvoir, il faut le dire clairement. C'est des postes où il y a moins d'argent. C'est des postes qui sont moins dotés. C'est des postes qui... Tout est... Bien sûr, la danse est un des arts qui est quand même le moins doté. Et c'est toujours vrai. Et c'est pas seulement la question de combien sont dotées les institutions, c'est que les salaires sont moins hauts, les durées de temps de travail sont plus courtes, et les carrières sont beaucoup plus courtes. Donc, et les spectacles sont beaucoup moins... Il y a très peu de séries. Bon, voilà. Tout ça fait qu'on mettait des femmes à des endroits, finalement, qui étaient peu reconnus d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue représentatif. Voilà. Et donc, oui, c'est intéressant. Nous, on le sait... Enfin, moi, je l'ai toujours su. On en était tous très conscients. C'est pas des choses qu'on découvrait. Je veux dire... on en était conscient, on en parlait depuis déjà des années avec tous mes collègues, peu avec les hommes, mais on en parlait, c'était très conscient.
Dans mon premier rapport, j'avais analysé que le pourcentage, si on prenait les budgets, par exemple, de l'ensemble des scènes nationales ou de l'ensemble des centres chorégraphiques, de l'ensemble des centres dramatiques, réseau par réseau, les hommes avaient en main, je sais pas, quelques 75% des budgets disponibles en tant que directeur. Et donc, parce que effectivement, les femmes sont plutôt nommées dans des petits lieux, en lointaine banlieue. Dans le domaine de la danse, j'avais remarqué à l'époque que les grandes institutions de la danse avaient toujours été dirigées par des hommes. La question des directions, elle est importante parce que quand on dirige un lieu, on a les moyens de production et les moyens de programmation. Et on en a la totale liberté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un phénomène que je qualifie d'homo social, c'est-à-dire que les directeurs donc en situation de pouvoir vont programmer et les programmants leur mettre le pied à l'étrier pour d'éventuelles fonctions de responsabilité et de direction plus tard, des gens qui leur ressemblent. Donc des hommes blancs programment des hommes blancs parce qu'ils se retrouvent en eux et ils assurent ainsi leur propre longévité en assurant leur succession. Et je voudrais ici parler d'une étude que j'ai trouvée très intéressante qui a été réalisée par une association qui s'appelle La Permanence. Et c'est une étude qui se revendique militante et dont je pense qu'on peut lui faire une confiance certaine parce qu'elle analyse la manière dont elle a élaboré ses chiffres. Et cette étude porte sur la programmation des centres chorégraphiques nationaux en lien avec les directions. Donc, à partir de l'analyse des directions, il est démontré que si, comme on le sait, comme je l'ai dit, des directeurs qui sont des chorégraphes, hommes, blancs, programment majoritairement des chorégraphes hommes blancs, puis des femmes chorégraphes, puis éventuellement ou des chorégraphes hommes racisés. Mais ce qui était important dans cette étude, c'est quelles étaient les programmations des chorégraphes hommes racisés. Eh bien, ils programment majoritairement des chorégraphes hommes racisés. Arrivent ensuite des chorégraphes hommes blancs, puis des chorégraphes femmes racisées, puis des chorégraphes femmes blanches. Donc, même des chorégraphes dits racisés, alors j'emploie ce mot parce que c'est le mot que les personnes concernées emploient, donc qui se revendiquent racisés. Donc employons-le. Donc ce phénomène homosocial joue aussi de la part de personnes racisées, et dans ce cas précis, elle joue en faveur de ceux qui leur ressemblent le plus, c'est-à-dire des hommes racisés, mais après, en qui se reconnaissent-ils essentiellement? Dans des hommes blancs plutôt que dans des femmes racisées. Et en dernier lieu, sont programmées de manière beaucoup moins importante dans ces centres chorégraphiques des femmes blanches. Donc on voit bien aussi comment le processus se perpétue et comment le processus d'élimination des femmes s'augmente. Parce que dans la mesure où le directeur programmateur a toute puissance sur ses choix et qu'il reproduit toujours du même, il n'y a aucune raison pour que les femmes retrouvent une place à la tête des centres chorégraphiques et donc dans les programmations. Parce que si on n'est pas programmé, il n'y a pas de raison pour qu'on soit connu, qu'on améliore son travail, parce que le talent, il ne tombe pas du ciel. Pourquoi on a du talent? Parce qu'on a les moyens de le travailler, des moyens financiers, l'opportunité de rencontrer des publics. Et vous disiez, les femmes dirigent des lieux moins dotés, mais ont aussi accès à des scènes plus petites. Les grands plateaux sont réservés très largement à des hommes, que ce soit dans le domaine du théâtre ou de la danse.
Il se trouve aussi que les femmes, pour des raisons beaucoup plus complexes d'éducation, souvent s'invisibilisent elles-mêmes. C'est-à-dire, il y a une espèce d'auto-éducation à faire que finalement, on n'ose pas candidater, on n'ose pas rencontrer tel programmateur, on n'ose pas aller vers des endroits de grande visibilité. Il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus profond, et c'est peut-être là, cet endroit-là, qui est beaucoup plus complexe pour le travailler. C'est-à-dire que ça, il y a quelque chose qui, il suffit pas de dire aux femmes, allez-y candidater. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire cette espèce de façon qu'ont les femmes de tout le temps se jauger, de dire qu'elles en sont peut-être pas capables. Et c'est beaucoup plus là qu'est le travail, je trouve, qui est très important, c'est que ça commence beaucoup plus tôt. Et il y a de l'empêchement qui est créé, qui est chez les femmes, voilà, pour des raisons beaucoup plus complexes d'éducation, ou de ne pas oser, alors qu'un homme, finalement, avec les mêmes compétences, va beaucoup plus oser se présenter à une candidature qu'une femme qui ne va pas oser. Donc c'est là où c'est compliqué. Moi, d'ailleurs, maintenant, j'enseigne depuis toujours, mais depuis à peu près, je dirais presque 10 ans, j'enseigne partout dans le monde entier, et les cours et les gens que je rencontre, que ce soit, là j'ai récemment enseigné en Grèce, je vais enseigner à Vienne demain, j'enseigne partout, ce n'est que des femmes. Et même maintenant, ça s'est empiré, je trouve qu'on a même des groupes entièrement féminins. Et c'est complètement bizarre, parce que ça m'arrive très fréquemment maintenant de faire des stages où il n'y a que des femmes. C'est-à-dire que les hommes ne se forment pas. Ils sont professionnels, alors je ne sais pas où ils sont, soit ils ne se forment pas, enfin disons que tout ce qui est formation continue, ils ne sont jamais présents, très peu. Alors sur certains stages de chorégraphe, je peux avoir des hommes, mais sur tout ce qui est stage de danseurs, interprètes, il y a une très très forte majorité, mais très très forte de femmes. Et donc quand on va en province et qu'on va donner un cours comme ça, il y a 3-4 mecs pour 40 femmes, enfin c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Maintenant, toutes les formations sont quasiment exclusivement féminines. La maternité reste toujours un frein quand même pour ses carrières, hein, même si tout le monde fait semblant que non, mais dans la réalité, vraiment. Moi, quand j'ai eu un enfant, j'étais intermittente, il n'y avait pas de congé maternité. Ça n'existait pas dans l'intermittence. Donc, on était obligé de travailler quand même. Donc, on ne pouvait pas se mettre en congé maternité. Je n'ai pas pu me mettre en congé maternité. Donc, j'ai juste arrêté de travailler pendant un mois et demi. Tout simplement, j'ai repris au bout d'un mois et demi et j'ai continué à... Voilà, on était obligés parce qu'il fallait gagner sa vie et ça n'existait pas, c'est relativement récent dans l'intermittence que le congé maternité soit reconnu. Et de fait, je crois qu'aujourd'hui, bon, les femmes prennent beaucoup plus de congés maternité, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est un facteur extrêmement déstabilisant parce que ne pas être sur scène pendant un an, c'est très compliqué de revenir après, très très compliqué. Donc les femmes font des enfants de plus en plus tard dans le métier. C'est rare de voir une danseuse qui a un enfant très tôt, ou alors il y a déjà des choses qui sont aménagées d'une manière ou d'une autre, ou une reconversion. En fait, c'est souvent le moment de la reconversion. C'est-à-dire, soit l'enfant arrive très tôt et effectivement on peut se débrouiller, soit l'enfant arrive très tard et il y a de la reconversion derrière. C'est-à-dire, elle arrête la danse, elle fait autre chose, elle fait de l'enseignement. Mais de fait, c'est des moments de vraie interrogation et qui sont pas tellement... sont acceptés symboliquement, mais c'est toujours quelque chose de complexe encore. Ça reste quand même très, très compliqué à gérer. Et alors, la question du corps, bon, moi, je pense qu'une femme qui a un enfant, elle retrouve son corps sans problème, c'est pas... Mais bon, il y a un temps quand même. Et aujourd'hui, on a dans les compagnies des gens de plus en plus jeunes, très, très jeunes. Hein, quand on voit certaines compagnies où il y a des danseurs très jeunes, très très jeunes, avoir un enfant pour eux, c'est vraiment, ça casserait leur carrière complètement. Donc ça reste toujours quelque chose de compliqué, un choix vraiment compliqué. Ouais, difficile.
En France, depuis 2009, le collectif Les Matermittentes œuvre pour défendre les droits des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle en congé maternité. De nombreuses femmes rencontrent encore aujourd'hui des difficultés de reconnaissance et de prise en charge de leur congé. D'autres, qui mettent fortement en jeu leur corps dans leur pratique, des danseuses, circassiennes, acrobates, techniciennes, comédiennes et performeuses, sont contraintes de s'arrêter plus tôt et plus longtemps. Ces moments restent encore trop souvent fragilisants dans une carrière.
Non, je pensais à dans ma dernière pièce, qui s'appelle Record, où j'ai décidé de montrer le buste des femmes. Donc les femmes, leur costume, c'est un pantalon de travail avec le buste nu. Et en fait, ça vient aussi de toute une réflexion que j'ai eue pendant des années et dont j'ai regardé le buste des hommes et le buste des femmes dans la danse contemporaine. C'est-à-dire la façon dont la danse et beaucoup de chorégraphes hommes ont instrumentalisé le buste des hommes comme un espace de pouvoir qu'on pouvait montrer. Et l'invisibilité des femmes. Alors on montre beaucoup. Il y a beaucoup de spectacles où il y a des femmes nues. Il y a très peu de spectacles où les femmes n'ont pas de soutien-gorge. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la poitrine dans la danse contemporaine, la façon dont elle a été vue, non vue, pas vue, parce que voilà. Notamment, je me souviens très très bien. Alors c'est une toute petite anecdote très sensible, mais quand j'étais très jeune, j'avais une de mes copines, enfin jeune. J'avais 15-16 ans à l'époque, je commençais la danse, et il y avait une fille qui était vraiment la danseuse que tout le monde voulait être, elle allait vouloir faire le conservatoire, sauf que cette fille avait des gros seins. Et à cause de ça, elle a dû arrêter, en fait, parce que ça lui était tout le temps reproché, alors qu'elle était vraiment la danseuse qui allait réussir parmi tout notre groupe de petites danseuses qui prenaient des cours. Et du coup, ça m'avait énormément marqué, cette fille, à quel point ça l'avait handicapée, cette histoire des seins. Et donc, pendant des années, j'ai regardé comment la danse avait traité le buste. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et le fait qu'effectivement, les danseuses ne devaient pas avoir trop de poitrine, la poitrine chez les danseuses, quel handicap ça crée, enfin, toutes ces questions, ça m'a intéressée, ça m'a amusée presque de le voir. Et après, en regardant chez les hommes, comment, on pourrait citer des noms, comment les hommes se dénudent très facilement, comment c'est un endroit de pouvoir et de représentation. Et les photos des hommes, toujours, voilà, je ne vais pas citer de noms, mais je pourrais en citer plein. Voilà. Et comment cet endroit-là est un vrai marqueur pour moi de d'esthétique. Et chez les femmes, ça reste toujours le lieu de l'intime. C'est-à-dire, malgré tout, montrer une poitrine de femme, ça reste un endroit de l'intime. Montrer une poitrine d'homme, ça reste un endroit de pouvoir. Et voilà. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ça, sans non plus me prendre plus la tête, mais ça m'a intéressée. C'est des choses qui ont mûri dans ma tête. Voilà, je pourrais rajouter ça.
L'apparition des seins est aussi immaîtrisable qu'inéluctable. Elle inscrit la fille dans une histoire qui est à la fois la sienne propre et celle de toutes les femmes, une histoire dont le cours est par ailleurs inflexible. Elle peut se couper les cheveux, ne porter que des pantalons, refuser tout signe extérieur de féminité, elle ne pourra se défaire de ses seins, sauf à se faire opérer. Têtues, leur présence figure l'évidence d'une condition sexuée, définie à l'aune de l'ordonnancement phallocentré du monde. On peut dire que les seins fonctionnent tout à la fois comme l'augure, la preuve et l'emblème de la féminité, entendu comme un mixte de disponibilité sexuelle et de dévouement maternel. Extrait du livre Saint, En quête d'une libération, de Camille Froidevaux-Métry.
Non ma fille, vous n'irez pas danser est une série en 6 épisodes produite par la Maison de la Danse de Lyon, imaginée et écrite par Marion Coutel et co-réalisée avec Nuit Noire, studio de création sonore immersive.